perte de 2 milliards d'euros négociés. Côté devise, l'euro est en progression également de 0,54% à 1,2176. Je vous redonne le CAC 40 plus 0,56%. C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Vous écoutez France Inter, 14h03. Il est temps bien sûr de rejoindre Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, le loup.
Il n'a pas peur. C'est un loup mais il n'osera pas nous attaquer. J'ai peur.
D'histoire. Plus qu'aucun autre animal, le loup a toujours fasciné les hommes, depuis les Romains qui l'avaient choisi pour emblème, parce qu'une louve, on le sait, avait sauvé le fondateur de leur ville, jusqu'aux enfants d'aujourd'hui qui ont encore peur du loup, tantôt divinisé, tantôt diabolisé, le loup a toujours suscité des sentiments contradictoires. Même dans les pays où il n'existe pas, il continue de peupler les contes pour enfants et nos fantasmes. Devenu une espèce protégée, alors qu'il avait disparu des forêts françaises pendant plus de 70 ans, le loup commençait à nous manquer jusqu'à sa réapparition dans les Alpes en 1992. Il devenait alors, malgré lui, le héros d'un feuilleton qui, depuis 12 ans, oppose les écologistes aux gardiens de moutons, excédés par les ravages provoqués par les quelques 60 loups qui vivent aujourd'hui en France. France Inter, le 14 août 2004.
La chasse au loup reprend aujourd'hui dans 3 départements des Alpes du Sud. Un arrêté interministériel l'autorise depuis hier. Sur l'ensemble de l'arc alpin, une 50aine de loups a été recensée, accusée de détruire les élevages. Hier encore, environ 200 moutons ont été retrouvés morts dans la région. Reportage sur place, Sébastien Mansour.
Il y a des éleveurs qui sont complètement désespérés. Il y en a qui dorment plus depuis 3 semaines, 1 mois, voire plus. Le jour, ils font leur travail chez eux. La nuit, ils veillent leur troupeau. Il y en a qui n'ont plus rien à perdre. Donc, il faut qu'on assure l'autodéfense officiellement. Et on se laissera pas bouffer par le loup. Et on va pas crever sans rien dire et sans faire des actions très, très dures pour être entendu. C'est quand même terrible de voir une société qui fait passer l'animal avant l'homme, quoi. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, quoi.
Sophie Bobet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, spécialiste des rapports entre les animaux et les hommes, auteur d'un livre notamment sur le loup. Alors justement, là, les rapports entre le loup et les hommes sont, pour le moins qu'on puisse dire, c'est pas bon. Vous avez sûrement suivi, comme tous les Français cet été, cette espèce de polémique qui a été provoquée par l'autorisation retirée, puis remise en question de tuer 4 loups dans l'année qui vient. Comment se fait-il que 4 loups, ou sur les 50 ou 60 qui vivent en France, provoquent tant d'émotions?
Alors, peut-être un petit rectificatif pour commencer. En fait, il ne s'est pas agi de donner une autorisation de chasse, mais effectivement de donner l'autorisation d'abattre. De tir, d'abattre. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une belle différence qui est importante à souligner. Comment ça se fait? Je pense que ça tient au fait que nous sommes dans une société qui n'est plus tellement habituée à vivre en relation avec le sauvage. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus un sauvage que l'on cherche à maîtriser, que l'on cherche à gérer. On pose des puces électroniques sur les bêtes, on pose des colliers émetteurs pour arriver effectivement à pouvoir anticiper leurs déplacements, anticiper leurs éventuels dégâts au troupeau. Et donc, il se trouve que ces loups qui arrivent, eux, ne font l'objet d'aucun suivi en tout cas. Et donc, en fait, on découvre leur présence après leur passage.
Cette émotion est d'autant plus surprenante que la France est un pays où les loups ont disparu pendant très longtemps, où il n'y en a à peu près qu'une 50aine aujourd'hui, 50-60, on ne sait pas très bien, alors que dans d'autres pays d'Europe, ils sont infiniment plus nombreux, je pense à la Russie ou même à l'Espagne.
Oui, c'est vrai, effectivement, nous avons effectivement peu de loups par rapport à d'autres pays européens. En Espagne, on compte à peu près 2500-3000 loups, ce qui est énorme. En Europe de l'Est, il y a énormément de loups également. ça ne veut pas dire que ça se passe mieux là-bas. Ça veut simplement dire que nous avons perdu l'habitude de cohabiter avec ce prédateur. Et donc, il nous faut réapprendre cette cohabitation. Et c'est là toute la question.
Et se débarrasser de quelques idées reçues, c'est le titre de la collection dans laquelle vous avez publié justement un livre sur le loup.
Absolument.
Où effectivement, vous liquidez pas mal d'idées reçues. D'abord, l'idée qu'il ne vit que dans les forêts. Or, il vit un peu partout, vous le rappelez, dans tous les pays d'Europe. Il n'est pas non plus uniquement noir, comme le représentent les contes pour enfants.
Effectivement, il est très loin d'être noir. Il a souvent un pelage assez blond, assez joli, qui lui permet parfois d'être dans des rapports mimétiques avec son environnement. On le trouve aussi bien dans les steppes, dans la forêt aussi, mais on sait qu'il est capable de franchir des territoires, y compris très urbanisés, puisqu'on a retrouvé il y a quelque temps un loup italien aux alentours du conflant pyrénéen. Donc on voit bien que pour en arriver là, il lui a fallu traverser un certain nombre de nationales, d'autoroutes et autres.
Alors là, vous parlez des vrais loups, Sophie Bobet, pas ceux des contes pour,
oui,
pour enfants, qui le représentent toujours noir, qui le représentent même sous des formes un peu fantasmées, comme par exemple le loup-garou. À quoi ça correspond, ce mythe du loup-garou?
Alors, effectivement, la figure du loup-garou est très très ancienne, parce qu'on la retrouve déjà chez les Latins, qui l'appelaient versipelle, pour retourner, et en fait, qui s'appuyait sur la croyance d'une possible métamorphose d'un homme en loup, qui à ce moment-là, homme qui se mettait à se comporter comme un loup et donc à faire des prédations autour de lui, très souvent qui s'en prenait à sa famille d'ailleurs. On retrouve également chez Hérodote, qui commente les rituels magico-religieux d'une population neure, la présence de métamorphoses possibles en loup. Donc on voit que c'est une figure très très ancienne qui a traversé les siècles et qui permet peut-être, et là serait mon hypothèse, de penser une possible porosité entre la frontière, entre l'humain et le non-humain.
En tout cas, les enfants y croient encore. Écoutez ce reportage de Thierry Scharf pour l'émission Là-bas, si j'y suis, France Inter, le 9 mai 2003.
Beaucoup de gens disent que le loup il est dans le parc du Mercanteau à Saint-Martin. Et qu'ils sont protégés et qu'on n'a pas le droit de les chasser et ni de les faire peur. Et si c'était le loup-garou, oui, j'aurais peur. Il y a des copains qui m'ont dit qu'ils ont vu un loup comme ça en cachette le soir. Ils voient des loups qui sont cachés avec qui essayent de chasser. Ils ont vu des loups-garous. Mais le plus souvent, c'est les petits qui disent qu'ils ont vu des loups-garous.
Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir? Qui craint le grand méchant loup? Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir? Qui craint le grand méchant loup?
Comment est-ce qu'on peut expliquer, Sophie Dobé, la peur du loup? Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du loup. Pourquoi a-t-on plus peur du loup que d'autres animaux sauvages, dangereux, comme l'ours ou comme le tigre, par exemple?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent éclairer en tout cas un petit peu cette question. La première tient au fait que le loup est un animal qui certes a été chassé mais ne se mange pas. Donc ça n'est pas un gibier.
Le tigre non plus.
Le tigre non plus, mais l'ours en l'occurrence en est un. Mmh. Et effectivement, on retrouve beaucoup de recettes. La seconde chose, c'est que je pense que nous avons besoin, on va dire sur le plan imaginaire, de figures de dévorateurs. Mmh. Alors, il fut un temps où ça a été le loup-garou, ça a été le drac, la sorcière. Et malheureusement pour lui, le loup en est une. En est une pourquoi? Parce qu'effectivement, il est présenté comme un dévorateur, un animal, un prédateur qui tue pour s'alimenter, mais qui tue quand même, et auquel souvent d'ailleurs on reproche de tuer un peu de façon excessive, plus que pour s'alimenter. Et donc je pense que la figure du loup est toujours associée à cette figure de dévorateur qui renvoie dans un ventre et qui ne produit rien de constructif avec la personne qui le rencontre.
Puis il a beaucoup servi à l'éducation des enfants. À l'époque où il a été fondé sur la peur, hein, on avait peur du loup, le petit chaperon rouge. Alors là, on voit aussi qu'il est, c'est un animal chargé de symboles. Par exemple, il symbolise la sexualité masculine. Hein, c'est le loup qui prend le déguisement de mère grand. C'est évidemment ça. D'ailleurs, on dit d'une jeune fille quand elle a découvert l'amour qu'elle a vu le loup. Mais c'est aussi, il incarne aussi la sexualité féminine, par exemple, débridée, la débauche.
Voilà, il a une figure très ambivalente, il a des représentations très ambivalentes. Alors, attaché à la sexualité masculine. En fait, c'est surtout la lecture que proposait Eric Fromm, qui est un psychanalyste très connu, ainsi que Bettelheim, qui effectivement avait décrypté, avait fait une analyse du conte du petit chaperon rouge en ces termes, en expliquant qu'effectivement la rencontre de chaperon rouge avec le loup avait à voir avec une initiation sexuelle. On peut y lire aussi une autre forme de peut-être d'interprétation qui serait plutôt qui tiendrait plutôt au fait que le loup en fait représente la crudité des relations entre les gens et qu'effectivement à partir du moment où il est question de dévoration il est question effectivement de crudité et le loup permet de dire cette crudité entre les gens, que ce soit aussi bien entre cette grand-mère loup qui est capable de dévorer et donc on reprend la figure du loup pour dire ça. Ce qui est de la louve est très différent parce que la louve est toujours représentée non pas comme une mère de sang, une mère qui accouche, mais une mère de lait, une mère adoptive. Une mère adoptante qui peut effectivement adopter. Et dans ces cas-là...
Oui, mais ça, c'était le cas, par exemple, de Romulus et Rémus, mais c'est aussi la prostituée qui était à Rome dans les lupanars.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a cette autre figure-là, et là, qui est de nouveau du côté de quelque chose de stérile, c'est-à-dire que la louve qui travaillait dans les lupanars est du côté de d'échanges sexués multiplié, mais improductif. Et donc, elle n'a pas du tout pour vocation de donner naissance. Elle a pour vocation, effectivement, de multiplier les échanges amoureux.
La mère protectrice, c'est pas seulement un mythe, hein, celui de Romulus et Rémus, donc sauvés, élevés par une louve. On a découvert des enfants élevés, nourris par une louve jusqu'au XXe siècle, qu'on appelait les enfants loups, Sophie Bobet.
Oui. Il y a eu un certain nombre, effectivement, de cas d'adoption par des animaux sauvages, tout à fait spectaculaires, qui ont été étudiés d'ailleurs, et il se trouve qu'il y a plusieurs enfants abandonnés très probablement qui ont fui les guerres dans les villages et qui ont été recueillis par des loups qui les ont donc pris sous leur protection. C'est notamment l'histoire connue de Amala et Kamala, ces deux petites filles recueillies en Inde par un missionnaire.
En 1920.
Et qu'on a eu beaucoup de mal, effectivement,
à réadapter
au monde des hommes, tant, effectivement, elles s'en étaient prodigieusement écartées.
Alors, des louves protectrices, ça existe, mais alors, la plupart du temps, le loup, s'il est diabolisé, il l'a tout le temps été, notamment par le christianisme, c'est parce que c'est un prédateur. Là, ce n'est pas une idée reçue. Il mange. Est-ce qu'il tue des hommes, comme on le dit souvent ? Là, vous donnez des chiffres, vous dites que dans les 50 dernières années, il y a eu quand même 9 morts liées, justement, enfin dévorées par des loups, en tout cas attaquées par des loups.
Alors, la question est toujours très compliquée. On va dire que les biologistes, qui sont un petit peu sérieux, pondérés, n'accepteront jamais d'affirmer que le loup ne peut pas tuer l'homme. Ça, c'est certain. Il est vrai que le loup a été souvent repéré sur les champs de bataille, donc en période de disette, d'épidémie, de famine.
Même dans Paris, hein, c'est pas seulement dans la chanson de...
Absolument. Y compris en milieu urbain. Donc ça, c'est une première chose. Dire qu'effectivement, il ne pourrait pas tuer aujourd'hui un homme. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vu la prolifération de la faune sauvage, il y a bien plus de choses à attraper que des hommes, et qu'effectivement, a priori, on ne voit pas pourquoi un loup s'attaquerait à un homme, hormis effectivement s'il est malade, s'il a la rage. Mais
oui, parce que c'est la rage, c'est quand le loup a la rage qu'il tue l'homme, plus qu'en le dévorant.
Voilà, c'est-à-dire que ça produit des comportements atypiques chez lui, il est moins craintif, la distance de fuite vis-à-vis de l'homme est très différente, et donc il peut effectivement se comporter d'une façon tout à fait anormal par rapport à un loup sain.
En tout cas, ça se passait plus souvent au Moyen-Âge ou encore à la fin du XVIIIe siècle dans le Gévaudan, encore qu'on n'ait jamais su très bien par quoi ou par qui ont été attaquées les 57 victimes de la fameuse bête du Gévaudan.
J'ai jamais vu un loup faire une blessure de cette taille.
Non, ça ne peut pas être un loup ordinaire. Pour moi, il y a du malin là-dessous.
Le diable. Sous une peau de bête. La taille d'un gros taureau, une crête sur le dos, une queue hérissée d'épines, 53 dents. Avez-vous déjà rencontré un tel monstre, Buffon ?
Je suis convaincu que ce monstre n'existe pas, sire.
Nous ne pouvons pas tolérer qu'un loup ridiculise notre royaume. C'est un vrai chasseur qu'il nous faut.
Portacubus Boterne, louvetier du roi.
Faites votre homme, tout en bas du matin, tout en bas du mont pour matin. Pour gâteau, prière en dévotion, tu passes au pied des loups sabots de châtaignier, mais t'es belles et les détouillées. Nous devons apporter des loups qui ont bon, chaussés de bons souliers d'un coup. Quand ta boutonnière je vois, ta vieille cuillère de bois, après avoir jeté les mots, nous mangerons la soupe au jour.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, le loup et cette vieille chanson de Théodore Beutrel dont on distingue malheureusement mal les paroles, la chasse au loup. Alors la chasse au loup, vous en parlez aussi, Sophie Bobet, dans votre livre, pour rappeler qu'elle n'a pas attendu Louis XV et la bête du Gévaudan. Elle date, pour ce qui concerne l'institutionnalisation de la chasse par l'État, de Charlemagne.
Absolument. Dès 813, en fait, Charlemagne crée un corps qu'il appelle les loups paris, qui sont donc des spécialistes de la chasse au loup, et en même temps se multiplient des battues obligatoires, vraiment pour un intérêt de police d'ordre public, on pourrait dire, d'intérêt public. Ce corps de loups paris sera par la suite, sous François Ier, réorganisé, re-hiérarchisé.
Ce qu'on appelait les louvetiers à ce moment-là.
Voilà, ouais. Et donc on verra effectivement apparaître les lieutenants de louveterie. En général, il y avait deux lieutenants de louveterie par comté et qui avaient en charge la lutte contre les loups.
Ouais, comme pour le cas de la bête du Gévaudan. Cela dit, ils n'étaient pas populaires. D'abord, parce qu'ils vivaient sur la population. Évidemment, ils étaient payés à la pièce, si je puis dire. Mais en plus, ils étaient nourris, logés par les habitants. C'était un privilège de la noblesse, parce qu'on considérait que c'était une chasse noble, jusqu'à la Révolution française. Mais ouais. Là, ça s'est poursuivi. Le corps des louvetiers, je crois, a continué d'exister. Et c'est même au 19e siècle que ça a été terrible. Il y a vous citez des chiffres, les tableaux de chasse aux loups, il y en avait des milliers.
Oui, absolument. C'est sûr que ces lieutenants de louveterie n'étaient pas toujours très très bien considérés, puisqu'ils vivaient vraiment à la charge du contribuable. C'était la plupart du temps des gens issus de la noblesse, donc il y avait quand même, disons, des moyens substantiels. Alors, ils ont un temps disparu, puis ils ont de nouveau réapparu. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont vraiment réussi à être très très efficaces dans la lutte contre les loups. Des primes, par ailleurs, étaient aussi proposées dans les villages pour des gens qui effectivement pouvaient tuer des loups. Donc ils ont effectivement largement contribué, on va dire, à l'éradication des loups en France.
Ah oui, ça, ils ont disparu, vous le rappelez, en 1927, je crois que c'est dans le Limousin.
Voilà, le dernier loup tué en 1927.
Le dernier loup tué. Voilà. Et puis alors, à ce moment-là, entre-temps, ils disparaissent pendant 70 ans en France.
Oui.
Entre-temps, le loup devient un animal protégé après avoir été un animal éliminé en Europe. Il y a la Convention de Berne en 1979,
oui.
Avec quelques dérogations selon les pays. Je crois que il y a quelques aménagements selon des pays, selon qu'ils ont plus ou moins de loups, selon que les loups font plus ou moins de dégâts. Au fond, c'est une révolution, ça, déjà, dans l'idée que l'on se fait des loups, cette convention de Berne, cette protection des loups, Sophie Bobet.
Absolument, c'est d'autant plus une révolution qu'en fait, jusqu'en 1973, le loup était inscrit sur la liste des espèces nuisibles. Et à partir de 76, donc de la loi de protection de la nature, le loup peut bénéficier de cette loi, puisqu'il tombe sous le coup de la loi de protection de la nature, mais au niveau européen...
Là, vous parlez de la loi française, mais on protège le loup, il n'y en a plus. Alors,
voilà.
C'est pas difficile.
Mais au niveau européen, il est effectivement protégé par la Convention de Berne de 79 et la directive Habitat qui date de 92. Comme vous le rappeliez, certains pays bénéficient de dérogations, comme l'Espagne ou la Grèce, parce que à l'époque, effectivement, la population de loups était très importante. Et donc, dans ces cas-là, dans ces pays, le loup a un double statut. Il est à la fois protégé, mais il peut aussi être géré quantitativement par des tirs de sélection.
Devenir, ce que vous dites, un animal cynégétique, je crois quand même que...
Voilà,
on donne des permis, il y a des organisations de chasse qui
exactement,
donnent des permis
exactement,
pour,
en Espagne,
très cher pour chasser
les loups. Oui. Les gens, effectivement, les grands chasseurs, on va dire, cherchent effectivement encore des lieux pour pouvoir tirer des loups. Et un trophée de loup au marché noir coûte coûte terriblement cher. Ah quoi, hein. Donc, on se rend compte que l'effet pervers de la situation, je dirais, c'est que avoir protégé le loup a fait monter les enchères au marché noir.
Mmh. Donc, c'est alors, un petit peu le... comment se fait-il qu'en 1992, c'est-à-dire plus de 70 ans, si j'ai bien compris, non, c'est peut-être tout à fait 70 ans après sa disparition en France, il réapparaisse en France dans les Alpes. Est-ce qu'on l'a réintroduit ou est-ce qu'il est venu tout naturellement, ce petit bébé?
Ce qu'on peut dire, c'est que la mise en protection des territoires en Europe a forcément facilité, d'une part, la prolifération du gibier. Et puis par ailleurs, il y a de moins en moins de chasseurs, hein, donc il y a énormément de gibier potentiel et donc de proies potentielles pour le loup. Les Italiens, eux, avaient effectivement déjà bien protégé leur territoire. Le loup en Italie tombait donc sous le coup de la Convention de Berne, donc était espèce protégée, ce qui a permis de faire remonter l'effectif de loup italien. Et le loup étant un animal qui cherche sans arrêt de nouveaux territoires au fur et à mesure que les meutes se créent puis éclatent, que les jeunes partent et doivent de nouveau reconquérir un nouveau territoire, eh bien les loups ont entamé une remontée de l'Italie pour arriver finalement dans le sud de l'arc alpin, dans le Mercantour, dans les années début des années 90.
Et en arrivant dans des régions où ils trouvent alors des proies toutes désignées, puisque on le dit souvent, c'est au fond le développement de l'élevage extensif des moutons qui a attiré le loup.
Alors il y a cet élément-là.
Parce que ça n'existait pas avant. Pourquoi est-ce que le loup ne s'intéressait pas à l'élevage avant et puis maintenant il arrive?
On va dire qu'il s'est toujours intéressé à l'élevage, simplement il avait été largement exterminé, donc évidemment il y avait moins de loups qui faisaient des pressions importantes sur les troupeaux. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de gibier, donc il suit également notamment les cervidés, les chevreuils, il est très friand de chevreuils. En Espagne, on voit très clairement comment la carte d'expansion des chevreuils recouvre parfaitement la carte d'expansion des loups.
Oui.
Donc effectivement, là où il y a du gibier, on peut trouver du loup. En tout cas, c'est un territoire pour lui tout à fait intéressant. Et il y a le fait qu'effectivement, en France, ayant perdu l'habitude de vivre avec ce grand prédateur, de plus en plus, on trouve des troupeaux qui ne sont pas gardés et donc qui sont effectivement un excellent garde-manger pour des loups qui seraient
oui,
effectivement
des
intéressés.
Avec les peu de bergers. Alors qu'il y a 3000 têtes de
voilà,
et ça, ça a été encouragé par les institutions, par le par l'Europe, je crois,
ça
le développement de l'élevage au vin extensif qui n'existait
pas
avant, les animaux ne rentrant plus parce qu'on fait plus de viande que de lait, ne rentrant plus effectivement
dans les étables. les pratiques agro-pastorales actuelles correspondent très exactement à la politique qu'on a voulu mettre en place. Donc je veux dire, l'éleveur en cela n'est que le produit de cette politique. Hein.
Mmh. Et ça explique le désarroi, bien sûr, des bergers exaspérés par les loups. Écoutez ce reportage de Véronique Pueyo pour l'émission Le Choix d'Inter, le 18 octobre 1998.
J'ai des attaques à 3-4 fois par semaine, hein. Des bêtes mortes, des bêtes blessées. Une brebis qui a... J'ai descendu sur le dos jusque-là, elle est venue mourir là au camion.
Oui, oui, non, mais là, ouais. On est à bout, hein.
On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. S'ils veulent nous éliminer les bergers, qu'ils nous le disent, terminé.
Jean-Pierre Jouffret est berger à Arles. Chaque été, avec ses 1000 brebis, il rejoint l'alpage de Belledonne, juste au-dessus du collet d'Alvar. Une montée en estive qui, cet été, a tourné au cauchemar. Son troupeau a été littéralement décimé par des attaques incessantes de bêtes sauvages.
Puis on y tient aux bêtes. Laissez manger nos moutons à des prédateurs. En plus de les manger, s'ils en tuent une qui la mange, ce serait rien. Mais c'est ceux qui blessent, hein, qui traînent dans la montagne. Il y a des brebis qui a 15 jours qu'elles sont en train de mourir. Par des souffrances atroces. Hein. Ça fait 3 mois que je crie au secours. Personne n'est venu me voir. Ça fait 4 jours qu'ils envoient l'ONC m'aider à garder la nuit. Mais c'est trop tard.
C'est toute la détresse du monde, avant ce qu'on vient d'entendre la bouche de ce berger. Et puis aussi, il déteste indépendamment du tort que lui fait le loup. On sent vraiment qu'il n'aime pas cet animal. Accusé, ça vous aussi, vous dites que c'est pas une idée reçue d'ailleurs, mais accusé aussi, ce qu'on n'aime pas dans le loup, c'est qu'il tue plus qu'il ne mange. Il tue pour tuer, en fait, souvent.
C'est sûr qu'un prédateur tel que le loup est très très organisé. Donc quand il arrive dans un troupeau, en général, ils attaquent en groupe, hein, en meute, et ils ont des techniques d'attaque redoutables. Ils sont capables d'isoler un chien de protection du troupeau de façon à pouvoir ensuite s'attaquer directement aux brebis ou à quelques agneaux. Donc ça, en soi, c'est ce que lui reconnaissent d'une certaine façon. C'est ce qui fait la noblesse de l'animal, mais c'est évident que c'est un animal redoutablement efficace quand il se retrouve dans un troupeau.
Alors, bon, ces éleveurs au fond, ils se moquent un peu d'être indemnisés, parce qu'il y a une indemnisation qui est évidemment prévue quand ils perdent leur brebis, une indemnisation qui s'élève, je crois, autour de 400 000 euros par an actuellement, pour une cinquantaine de loups. Comment peut-on justifier la défense des loups, justement, comme le font, on les a pas entendus dans ces archives, mais comme le font les écologistes, Sophie Bobé?
C'est vrai que les écologistes s'appuient sur le fait, sur les textes légaux, tout simplement, en voulant absolument faire appliquer la Convention de Berne, en disant le loup est une espèce protégée. Alors, je pense que la grande question est de savoir, est-ce qu'effectivement on veut protéger avant tout l'espèce? Et quelquefois, peut-être qu'il est nécessaire d'autoriser des tirs sur quelques individus de cette espèce, ou est-ce qu'effectivement on considère qu'on doit protéger tous les individus de cette espèce, et à ce moment-là, on refuse d'entrée de jeu tout plan, tout dispositif permettant une régulation possible de l'effectif des loups. Je pense que la question est véritablement là aujourd'hui. C'est vrai que par ailleurs, on a perdu l'habitude de vivre avec du sauvage qu'on ne maîtrise pas. La figure du loup illustre, cristallise exactement toutes les propriétés de ce sauvage qu'on ne maîtrise pas, et peut-être qu'on en est là aujourd'hui. Il va effectivement falloir réapprendre à vivre avec ce sauvage qui n'est plus sous contrôle.
Mais justement, est-ce qu'on peut imaginer une cohabitation entre l'homme et le loup après une guerre qui a duré, on vient de l'entendre, des siècles? Je crois qu'un jour vous avez fait l'expérience, vous avez vu un loup, pas en France et en Espagne, et vous l'avez vu dans une ferme.
Oui, c'est absolument incroyable. J'aurais jamais imaginé voir dans ma vie un loup dans ces conditions-là. En fait, il se trouve que j'étais dans la montagne en Espagne, dans la Cordillère Cantabrique. Je me rendais à un rendez-vous chez un éleveur. Et très tôt le matin, entre chien et loup, on peut le dire, j'ai aperçu dans une cour de ferme un animal qui se déplaçait d'une façon qui ne me semblait pas très très familière. Et donc, je me suis arrêtée, je suis rentrée dans cette cour de ferme. Et là, effectivement, j'ai vu, on va dire, un gros chien, un très gros chien, qui ne m'a pas du tout donné envie de sortir de ma voiture. Et finalement, en discutant avec l'éleveur, il m'a raconté qu'il avait recueilli ce louveteau à la louvière, que les autres louveteaux avaient été tués, et que finalement, il avait décidé de garder avec lui ce loup, qui était devenu adulte, et qu'il avait, on va dire, dressé comme loup de garde. Voilà.
Sans doute une exception. En tout cas, merci Sophie Bobé de nous avoir parlé de cet animal que l'on retrouve aussi dans votre livre, Le Loup, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Les Idées Reçues. Vous avez également écrit aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, L'Ours et le Loup, donc un essai d'anthropologie symbolique. À lire également Les Loups de Geneviève Carbone, un très beau livre illustré publié chez Larousse. Vous avez pu entendre un extrait de La Bête du Gévaudan, un téléfilm de Patrick Volson. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, puis taper la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lévin Caron, Patrick Leroux.